un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Grönlund. Cette semaine, exologie et autres reportages d'Adila Benedjaizou. C'est le dernier épisode aujourd'hui de notre série Exologie. Adila Benedjaizou retrouve certains de ses ex, anciens amants ou compagnons de vie, pour essayer de comprendre, 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, pourquoi elle est aujourd'hui célibataire depuis si longtemps. Si vous avez loupé les épisodes précédents, pas de problème, rendez-vous sur l'application Radio France ou sur notre site et vous ferez connaissance avec Vincent, l'amoureux du lycée qui cache un lourd secret et un charme fou, avec Régis, le scaphandrier rencontré au Mali, période humanitaire, Antoine, l'intello militant, ça c'est le moment altermondialiste, avec Malik aussi, le fêtard, et Julien qui vaut le détour, car on a toutes un Julien dans le cœur. Voici enfin Jérémy, dernier ex pour Noël, un type au sens balzacien du terme. Sauf que ce n'est pas un ex comme un autre, car nous sommes en 2018 et ceux qui connaissent les séries des pieds sur terre savent qu'en 2018, c'est PMA hors la loi. Or, PMA hors la loi, ça raconte ça, Adila est enceinte. À cette époque, les histoires d'amour au cinéma ont été remplacées par des séries dans lesquelles les héroïnes ont bien changé. Elles peuvent être racisées, ce ne sont pas toujours des bimbos, parfois même elles ne sont pas au régime perpétuel, comme dans Orange is the New Black. Voici donc Exologie, épisode 5, Adila Benedjaizou, 2018.
Alors le sujet de ce soir, vous rappelez ce que c'est ?
Lâcher prise.
Alors, comme ça, bon an, mal an, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Respirer.
Respirer.
Légèreté.
Good. En fait, il y a 4 désirs de base qui font qu'on ne lâche pas prise. 1, c'est le désir de contrôle. 2, c'est le désir de sécurité. 3, c'est le besoin de reconnaissance. Et le 4, c'est le besoin de séparation.
Karima ?
Oui ?
Si le manque de lâcher prise, ça vient dans la vie sentimentale, est-ce qu'on peut considérer que le besoin de séparation, c'est de se séparer de son célibat et de son sentiment de solitude ?
Exactement.
À force de faire des recherches sur le célibat, il m'est arrivé un drôle de truc. Facebook m'a envoyé une pub pour une méthode révolutionnaire qui promet, je cite, de rencontrer un partenaire dans les 6 prochains mois sans enchaîner les ruptures ni perdre de temps avec un homme ennuyeux. Ne voulant pas laisser passer une telle opportunité, j'ai demandé à assister à une séance de groupe de ce programme, séance qui se déroule sur Zoom.
Maintenant, il faut passer à l'action. Donc, vous allez passer à l'action en vous autorisant. Donc, la deuxième étape, c'est je m'autorise. Chacun écrit. Donc, je m'autorise à être moi-même. Je m'autorise à... Pour ouvrir les possibilités, je pose des questions. La question permet vraiment de dire au cerveau, regarde, il y a d'autres possibilités. Donc là, une fois que vous avez nommé, là, vous vous posez à vous-même la question, est-ce que je peux me permettre de lâcher prise sur ce désir ? Donc, je suis très polie avec mon cerveau.
Karima ?
Oui ?
Moi, du coup, je me suis un peu conditionnée, je suis très dure avec moi-même dans mes mots. Donc, quand je suis trop polie comme ça avec mon cerveau, est-ce que je peux me permettre ? La première réponse qui me vient, c'est non, je ne peux pas me le permettre. Est-ce qu'on peut utiliser une phrase un petit peu plus dure, un petit peu plus vindicative ou...
Non. Non, très bien, il ne peut pas permettre, il faut l'écouter.
À ce stade, je suis très sceptique sur la méthode. Mais quand je parle avec Karima, elle me semble sincère. Le problème, c'est que ce programme est très cher. J'ai promis à Karima que je ne révélerai pas ses tarifs, mais je peux vous dire que je ne peux en aucun cas me le payer. Alors j'ai demandé si je pouvais interviewer une femme qui avait suivi la méthode, et on m'a recommandé Astrid, qui a 33 ans.
C'était un chaos complet pour moi, parce que en fait, j'étais séparée, donc j'étais célibataire, et j'essayais de faire de nouvelles rencontres pour rencontrer quelqu'un qui puisse me correspondre, et les gens ne comprenaient pas. Parce que j'avais, selon leur point de vue, tout pour trouver quelqu'un, tout pour être heureuse en amour. Il n'y avait pas de raison. Et donc, finalement, on me disait que j'étais trop exigeante.
Et alors, comment ça s'est passé, la méthode ?
Alors déjà, je me souviens, j'étais paniquée au début parce que je savais pas du tout comment ça allait se passer. Et puis, il y avait beaucoup d'enjeux pour moi. C'est-à-dire que j'y mettais beaucoup d'enjeux en me disant, voilà, ça va peut-être révolutionner ma vie, en fait. Et en fait, j'étais dans une façon de fonctionner complètement erronée. Donc là, j'ai su, en fait, enfin, poser mes limites, savoir ce qui était bon pour moi. Donc là, ça a été vraiment me recentrer sur moi, reprendre le pouvoir de ma vie sentimentale. Et ce qui est important pour moi aussi, c'est tout ce qui est spirituel, développement personnel, en fait, vraiment, évoluer dans sa propre dimension personnelle, dans ses émotions. Alors, par exemple, moi, je sais que j'ai un besoin tactile important. Alors, c'est pas que pour ça, mais notamment pour ça. Moi, je fais de la danse de couple. Je fais de la kizomba. Ça vient d'Angola. C'est une danse, qui est souvent associée aux danses latines comme la salsa et la bachata. Le contact est beaucoup plus proche qu'en salsa et qu'en bachata. On est vraiment dans une dimension de, avec le buste, une connexion au niveau du buste. Donc, on est collé à l'autre. Et une fois qu'on est connecté comme ça et qu'on est en confiance avec son partenaire de danse, il y a aussi, faut apprendre le lâcher prise. Et c'est aussi un plaisir. Toute la progression a été pour moi en montant, en fait. Et à la fin du programme, de me dire, ouais, là, c'est bon, j'ai tout en main, et ça y est, je sais faire. Comme cette idée de règle du jeu, c'est vraiment ma façon dont je l'ai perçue. De dire, ouais, il y a des règles à respecter, parce que sinon, les hommes fonctionnent d'une certaine façon, les femmes fonctionnent d'une autre façon. Les hommes, on a un instinct qui est différent. On n'est pas géré par les mêmes hormones. Après, je ne sais pas comment l'expliquer de façon peut-être très claire ou bien, mais je vais le dire comme ça vient, ce n'est pas grave. Je pense que les hommes ont aussi besoin d'avoir une part de contrôle et de maîtrise dans la relation. C'est-à-dire qu'on a quand même été élevé dans un monde où on apprend à l'homme c'est à lui de faire les choses, c'est à lui d'être moteur. Et si l'homme n'a rien à faire, en fait, finalement, ça le désintéresse inconsciemment, en fait, parce qu'il a aussi besoin de... J'allais dire de chasser, je sais que le terme n'est pas celui que j'aimerais employer, mais d'être dans l'action aussi, de venir conquérir sa demoiselle. Et donc ça se termine comme ça, en fait. Ça se termine en faisant le lien avec la relation, les rencontres, comment on rencontre quelqu'un, où on rencontre la personne potentiellement qui nous correspond ou qu'on a envie de rencontrer. Et c'est aussi créer sa vision. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qui j'ai envie de rencontrer? C'est quoi mon homme idéal? C'est quoi ma relation idéale? Alors moi, je me suis inscrite sur les sites de rencontres. Et puis finalement, j'ai rencontré quelqu'un, pas sur un site de rencontres, mais parce que moi, je sortais quand même beaucoup dans ma vie aussi de façon générale. Donc j'avais quand même un vivier de rencontres possibles facilement.
Et depuis, vous êtes avec cette personne ?
Alors non. Je suis restée avec cette personne pendant 5 mois. Et donc évidemment, j'étais dans l'observation quand même. Donc j'appliquais tout ce que j'avais appris. Et ça fonctionnait bien. Bon, après, ce qui a dysfonctionné à un moment donné, je pense que c'était un peu un événement aléatoire. Et cette personne a eu des problèmes personnels dans sa vie. Un décès notamment, etc., qui ont fait qu'après, je pense, lui a eu d'autres besoins. Et donc, de fait, ça s'est arrêté.
À la fin de cette conversation avec Astrid, je suis partagée. Astrid est une femme sympathique et visiblement, le programme l'a vraiment aidée. Et puis, mieux assumer ce qu'on veut et danser, ça paraît être une bonne technique pour se sentir bien. C'est très difficile de saisir en quoi consiste concrètement cette méthode miracle, mais de ce que j'ai pu en comprendre, il s'agit de 3 mois de séances de coaching sur Zoom. J'en suis là quand Astrid me dit qu'elle-même est devenue coach et qu'elle travaille pour Karima. Là, j'ai vaguement l'impression d'avoir été menée en bateau, mais peu importe, car ce que me dit Astrid de son métier m'intéresse plus que le reste.
Avant, j'étais responsable recrutement dans une société d'informatique. J'avais beaucoup de profiling, du coup, moi, j'étais beaucoup dans l'analyse des profils, c'est-à-dire qui va coller avec qui. Donc, j'étais déjà un peu là-dedans, parce que c'est un domaine, quand même, l'informatique très challengeant niveau recrutement. C'est très tendu comme marché. Et donc, il y avait un vrai intérêt. Pour moi, l'axe de la fidélisation des clients était énorme. Et en fait, finalement, le travail était identique. C'est-à-dire que la fidélisation, c'est quoi? C'est-à-dire une relation qui marche sur du long terme. Donc pour que la relation marche sur du long terme, c'est pas juste « ah bah tiens, j'ai le feeling tout de suite ». C'est d'aller plus loin, c'est de dire « ok, mais est-ce que dans le long terme, ce qu'on te propose, ça te correspond et ça correspond vraiment à ce que tu recherches ?» et vice-versa. Donc il faut avoir de grandes capacités de fidélisation parce que, je dirais un peu comme le marché de l'amour finalement, surtout en région parisienne, quoi, c'est un Tinder géant, je dirais qu'il y a des tentations partout, il y a des rencontres potentielles partout, donc pour que ça fonctionne, c'est pas juste « bah il y a que elle dans ma vie, bah je fais avec ». c'est parce que ça fonctionne vraiment qu'on a envie de rester. Parce qu'on fait le choix, et donc ça revient à une question de choix. J'ai fait le choix de rester avec cette personne-là parce qu'elle me comble.
Le coaching et le développement personnel s'appuient sur une éthique de la responsabilité individuelle. Ils nous disent « rien n'est impossible ». À un moment où nous sommes fragilisés par la disparition des structures traditionnelles qu'était la famille ou l'entreprise. Ils prétendent que tout dépend de notre volonté, alors que nous sommes chaque jour plus isolés et mis en concurrence les uns avec les autres. Le coach, comme son nom l'indique, est l'entraîneur qui va vous aider à donner le meilleur de vous-même dans la course à l'emploi ou le derby amoureux. Mais il y a une couche supplémentaire avec ce concept de lâcher prise. C'est que dans les stages de yoga comme dans les programmes de développement personnel où il est le plus utilisé, il n'y a quasiment que des femmes. Je le sais parce que j'en fais moi des stages de yoga où on apprend à lâcher prise et où on n'est que des femmes sauf le prof. D'ailleurs, c'est mon prof que vous entendez chanter. Le problème, c'est que les hommes célibataires, eux, ne font pas un travail sur eux-mêmes. Ils prennent plutôt des cours de séduction, où on leur apprend à reprendre le contrôle, à ne pas se laisser faire. J'en étais là de mes réflexions quand j'ai dîné à Alger avec ma tante et ses copines divorcées.
La dernière fois, on a été présente à Dra. J'ai fait une retraite de yoga là-bas.
Ah ouais ? Il y a du yoga à Hadrat.
J'ai montré juste quelques photos. Là, c'est avec le prof de yoga. Alors, on faisait deux fois par jour le yoga. Et le reste, c'était des balades. On marchait, des randonnées.
Une copine de ma tante est devenue fan de yoga et pratique dans le désert.
On était en tout, je crois, 15.
Que des femmes.
Ça dans les stages de yoga. Elle dit c'est la coche.
Jusqu'ici, voilà. Je pensais que le yoga c'était un truc de bobo. Mais si les Algériennes se mettent à faire le chien tête en bas, c'est qu'on est dans un phénomène mondial de haute amplitude. Et c'est inquiétant. Car si on apprend à toutes les femmes du monde à lâcher prise et à tous les hommes à reprendre le contrôle, on voit bien comment l'offre et la demande peuvent se rencontrer sur le marché de l'amour. Mais qui veut de ce monde-là ? Pas même moi. Alors que vous l'avez constaté, je ne suis pas une surdouée dans ce domaine. Et je crois que ce n'est pas mon histoire avec Jérémy qui vous fera changer d'avis.
Comment vous vous sentez ?
Eh bien écoutez, ça va très bien. Je me réhabilite doucement à la gravité.
Elle commence à l'automne 2017.
C'est la chose la plus difficile que j'ai faite depuis 6 mois.
Thomas Pesquet vient d'atterrir après 6 mois dans l'espace et j'ai moi-même accompli une mini-révolution technologique. Je suis enceinte suite à une FIV double don. Je porte un petit être qui n'a pas un seul de mes gènes, mais que j'aime déjà d'amour. En vrai, ma rencontre avec Jérémy a eu lieu des années plus tôt, quand j'étais une aventurière du sexe.
Pas mal. Bah, écoute, je me souviens très bien de notre rencontre, de notre nuit de folie avec Nicolas. Je me souviens de l'appart, je me souviens de vous deux, un peu à poil dans l'appart, je me souviens de dire un truc du genre « le jour se lève, il y a un accès au toit ». Je me souviens de vous deux sur le toit. Je me souviens de toi sur le Nicolas sur le toit. Et je me souviens avoir dit « c'est une connerie là, on peut tomber en fait ».
Et on est tombé, Jérémy et moi, dans une histoire en pointillé qui a toujours été très foireuse. En premier lieu, parce qu'il avait une copine.
Ah bon ? Bon, c'est quand même pas mal vu, hein ?
Ben, pas tant que ça, si. On a dû se retrouver tous les 3 ans ou un truc comme ça, se recroiser un peu.
Non, 2 ou 3 fois, on a passé des mois ensemble. Enfin, en tout cas, on se voyait.
Des mois ?
Non, mais des mois. On voyait régulièrement pendant des mois. Et après, plus.
Je pense pas, non.
J'ai le souvenir d'avoir passé pas mal de week-ends avec toi, surtout chez toi.
Ah bon ?
Oui.
Mais je pense que tu délires.
Bon, c'est fou, 50 fois.
Un des trucs sidérants avec mes ex, c'est qu'on a des versions si différentes de la même situation que j'ai l'impression qu'ils sont sortis avec quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la fréquence avec laquelle on s'est croisés, quand Jérémy apprend que je suis enceinte, il m'appelle.
C'était génial. C'était génial pour toi. Je trouvais ça dingue de beauté, quoi. Que tu sois enceinte.
Je ressens tout de suite l'enthousiasme de Jérémy.
Moi, je suis pleine de vie et de joie, et j'ai envie de partager ça. Et puis, ça me plaît qu'il y ait un homme à mes côtés pendant ma grossesse. Je lui propose de venir aux échographies avec moi.
J'ai pas trop réfléchi. Je crois que si j'avais lancé la machine à réfléchir, j'aurais été plus prudent.
Les échographies s'enchaînent et je me sens de mieux en mieux. Pour la première fois de ma vie, je n'essaye pas de rentrer mon ventre. Et je m'achète des body moulants que je n'ai jamais osé porter jusque-là. Je me sens belle et remplie de désir. Jérémy devient mon amant jusqu'à l'accouchement. Mais après la naissance, la fatigue a remplacé la libido et il ne se passe plus rien entre Jérémy et moi. Pourtant, il continue à venir à la maison et à se comporter avec mon fils comme si c'était le sien.
Par moments, je faisais la blague de... Je parlais de mon fils. J'ai souvenir d'en avoir parlé, d'avoir face à moi des gens qui me disent « Ouais, mais Coco, c'est porteur de sens. »
Après quelques semaines, lassé de l'ambiguïté de la situation, je dis à Jérémy qu'il peut y avoir une place pour lui auprès de mon fils et moi, mais seulement si notre relation est plus claire.
Je me souviens avoir eu très peur. Je me souviens m'être dit « ça va être génial, mais si je m'approche trop de cet enfant, je pourrais plus me détacher. » Ça me fait peur l'idée de devoir me dire que peut-être un jour, ce sera un peu moins mon enfant.
Ça fait longtemps.
Tu sais, ta mère, elle m'a demandé de t'adopter. Tu es au courant de ça?
Oui.
Eh ben, j'ai réfléchi. Et j'en suis arrivé à la conclusion que c'est pas une bonne idée que je t'adopte.
Puis j'avais cette scène de roi et reine aussi dans la tête.
Et je suis venu pour te dire ça.
Ouais, Malric.
Tu parles pas?
Je pense à des idées.
À élever l'enfant de Emmanuel De Vos. Emmanuel De Vos est un héros marié, enfin un nouveau monsieur. Le monsieur est un peu chiant.
Quoi, 3-4 ans?
Et elle lui demande si Amalric, elle demande à Amalric s'il ne veut pas adopter l'enfant parce qu'il n'aime pas trop le papa.
On s'entend bien. Et comme je te l'avais dit une fois, une chose dont je suis très fier dans ma vie, c'est de te connaître.
Donc je me souviens avoir eu très peur de ça. Avant ça, j'avais déjà envie d'avoir un enfant. Et j'avais une envie furieuse. Mais malgré les blagounettes, c'était pas mon enfant, c'était le tien.
Pourquoi tu me l'as pas dit? En fait, ce qui s'est passé après que je t'ai parlé, c'est en gros, t'as disparu et tu m'as jamais donné de réponse. Et c'est bizarre parce que du coup, ça oblitérait encore plus. Enfin là, pour le coup, c'était réglé que tu rompais toute relation avec Yuri et moi.
Je me sentais pas... J'avais trop peur de... Qu'est-ce qui pouvait se passer si ça se passait mal?
Oui, mais en faisant rien, ouais. Ça se passait mal.
Ouais, mais je me disais toujours qu'on pourrait à un moment en parler. Je crois qu'il y a ce truc de... Je ne peux pas choisir. Je laisse les choses glisser entre mes mains. Et que choisir, c'est éliminer et que je veux pas.
Et en même temps, t'es conscient que quand on choisit pas, en fait, on choisit.
Bien sûr, bien sûr. Je me souviens avoir repensé à nous et m'être dit pourquoi on n'a jamais vraiment essayé.
Bon, je te pose la question. Pourquoi on n'a jamais vraiment essayé?
Ben moi, je te la pose.
Moi d'abord. Selon toi.
J'ai eu l'impression qu'à un moment, on aurait pu. Mais je me suis dit que ce... Tu voulais pas. Et après, j'ai vraiment flippé avec Yuri.
Vous, je ne sais pas, mais moi, je trouve certains de mes ex sérieusement agaçants. Ne vous méprenez pas, je trouve ça chouette qu'ils aient fait l'effort de répondre à mes questions. Mais à les écouter, j'ai l'impression qu'ils sont toujours en train de se gratter l'oreille en passant le bras derrière la tête. Finalement, si je suis célibataire, c'est peut-être parce que je ne sais pas choisir mes compagnons. Alors je sais qu'en ce moment, une des options principales, c'est de ne plus coucher avec l'oppresseur. De vivre entre femmes, pour se libérer de la domination masculine. Je vois à quel point ça peut être efficace, mais personnellement, je n'ai pas envie de le faire. D'abord parce que pour avoir vécu en tribu d'amis, je sais que c'est beau, mais ce n'est pas toujours l'Éden qu'on s'imagine.
et puis je crois que j'ai perdu trop d'hommes dans ma vie pour désirer leur absence. Collectivement, ils nous dominent, individuellement, ils me font tourner en bourrique, mais je n'ai pas envie de vivre dans un monde sans eux. Et je pense aussi que c'est impossible, on a toutes des frères, des pères, des oncles, dont on ne peut pas se débarrasser comme ça, dont on n'a pas envie de se débarrasser comme ça. Moi, par exemple, j'en ai un tout neuf à la maison, mon fils, sur lequel je vois déjà peser des injonctions de genre. C'est mon job, je le sais, d'en faire un homme du futur, qui ne cherche pas toujours à prendre le contrôle. Et bizarrement, je trouve que c'est aussi un peu mon job de faire en sorte, quand il sera en âge de quitter le nid, d'aimer quelqu'un d'autre, pour qu'il puisse s'en aller tranquille.
Soit on a des mains semi-régulières, soit on a des mains unicolores.
Bon, je ne suis pas très bien partie, mais heureusement, j'ai encore quelques années devant moi.
4-4-3-2 ou 5.
C'est pour ça que j'ai adoré l'histoire d'Hélène. Elle a 71 ans et le premier truc qui m'a plu chez elle, c'est qu'elle joue au bridge.
Alors j'ai l'habitude de dire à mes copines, avant il aimait que le bridge, maintenant il aime le bridge et moi, mais c'est tout.
J'adore les cartes et je me suis toujours dit que quand je serai à la retraite, j'apprendrai le bridge. Que c'était mon ticket gagnant pour une vieillesse heureuse.
Donc j'ai pris ma retraite en 2014, il y a 8 ans, un petit peu avant mes 65 ans que j'aurais dû attendre. Je suis médecin généraliste, enfin j'étais médecin généraliste et pour refaire un peu l'historique, en 2014, quand je me suis arrêtée, je me suis dit que j'allais jouer au bridge pour m'occuper un peu la tête. Le monde du bridge, c'est un monde de friquet, hein. Pas forcément très sympathique, mais surtout très cultivé. Il y a beaucoup de voyages de bridge. Je suis allée une fois en Sicile et puis je suis allée au Monténégro parce que je sais pas, bon... Voilà, ça faisait un peu exotique. Et en fait, je suis restée 2 semaines. Moi, c'était 2 stages de 8 jours. Je suis restée les 2 semaines. Et entre les 2 semaines, il y avait un jour où on faisait rien. Et j'ai vu les autres arriver. La deuxième équipe, la deuxième semaine. Et puis, donc, quand on arrive, bon, on prend sa chambre, ses trucs. Et puis, on va voir les excursions qu'il y a à faire et les excursions qu'on veut faire. Puis il y avait un mec qui était installé dans un fauteuil et quelqu'un lui a dit bah, « Alors Alexis, tu t'inscris pas hein ?» Et Alexis il dit « Oh non, moi les excursions ça me gonfle un peu, mais ce que je veux bien par contre, c'est si on me trouve un baby-foot. » Alors là, je me suis dit « Le gars qui va à l'autre bout de l'Europe pour trouver des baby-foot, il faut que je creuse. » Voilà, et c'est comme ça que j'ai... Je suis allée le voir, je lui ai dit, parce que moi aussi j'aimais bien le baby-foot, j'aime bien les flippers, on aime bien jouer quoi. On joue à tout. Et puis bah, quand on est rentré, on s'est aperçu à ce moment-là qu'on s'était en fait sans doute déjà vu une fois et on habite à 500 mètres l'un de l'autre.
Mais est-ce que c'était clair dès le Monténégro que c'était une histoire d'amour ?
Moi tout de suite. Et puis lui, il a peut-être mis un peu plus de temps parce que il a quand même 7 ans de plus que moi. Il avait déjà 73, il trouvait ça très compliqué, il me disait oui, mais il avait une copine, il fallait qu'il se sépare de sa copine, sa longue kikinette, c'était en septembre, donc jusqu'à décembre, janvier, c'était, voilà, on se voyait, on allait à des cours à la fac ensemble, à la fac des anciens, là, c'est pas loin, c'est sur l'île de Nantes aussi. On avait 2 cours un après-midi, et on avait un plan entre les deux, et donc on se trouvait une petite salle où Arim faisait travailler, le bridge. Et puis petit à petit, travailler le bridge s'est un peu transformé. Quoi. Ouais. Et on s'est embrassé pour la première fois. Mais alors, c'était fougueux, hein, à la fac, comme des jeunes. Et puis finalement, au mois d'août, l'été d'après, j'ai pris mes vacances en aparté, enfin toute seule. Quoi. Et puis quand je suis rentrée, j'ai vu me chercher à l'aéroport. Et il m'a dit, on rentre à la maison, hein, je vais manquer. Et puis voilà, mais je ne suis pas rentrée chez moi. En fait, je suis rentrée chez lui. Puis on a habité ensemble pendant un an, presque un an et demi, jusqu'à la pandémie. Et donc, moi, je suis retournée au CHU. Et puis, à ce moment-là, il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait rien. Donc, j'étais un peu dangereuse. Quoi. C'est même si je travaillais au téléphone, mais je veux dire, c'était un milieu, il y avait énormément de médecins, il y avait énormément de passages. Enfin, c'est... Et donc, je me suis dit que j'allais rentrer ici. Et finalement, on a trouvé ça très, très pratique. L'appartement d'Alexis, il est petit. Je ne pouvais pas tellement y prendre mes petits-enfants, donc j'en ai 4. Et puis, Alexis, il n'est pas très patient avec le bruit. Donc en fait, quand j'ai été obligée de rentrer, j'ai trouvé ça formidable, quoi. De plus vivre ensemble et de pouvoir se voir quand on avait envie. Et puis depuis, c'est comme ça, depuis 2019, depuis 3 ans, c'est comme ça et c'est très bien. Et puis voilà, on va au Cinoche, on fait du vélo, on va jouer au flipper. Et puis on joue beaucoup au bridge sur Internet.
Et la première fois que vous vous êtes retrouvés dans un lit tous les deux?
C'est le soir où je suis rentrée de Corse. Alors bon, les rapports sexuels sont pas du tout les mêmes que... En plus pour les mecs que pour les nanettes. Je pense que moi, j'ai des plaisirs à peu près identiques. Enfin. Il y a beaucoup plus de tendresse, de toucher, de... plus que des pénétrations. Enfin, je sais pas si c'est pour tous les gens de plus de 70 ans comme ça, mais c'est bien quand même. Voilà, on en a envie, quoi. Hein. C'est vrai que de temps en temps, on s'engueule un peu, hein, parce qu'on a... Il a des idées quelquefois un peu réac qui me foutent en colère. Mais bon, ça devient un peu un jeu, quoi. Il vote pas Front Nat, hein, c'est tout ce que je lui demande.
Est-ce que vous parlez d'avenir tous les deux?
Non, hein. On n'a pas beaucoup d'avenir. Hein. On va pas faire des petits ensemble. On va pas en adopter. Non, on n'a pas d'avenir. De temps en temps, je pense qu'il va casser sa pipe peut-être avant moi. Voilà, bon, je pense qu'il a quand même 7 ans de plus que moi, donc a priori, il va mourir avant moi, mais je pense qu'il n'y a que quand il mourra qu'on se séparera. Je vois vraiment pas ce qui pourrait nous... Je sais pas. S'il y a une chanson qu'on peut mettre en rapport avec mon histoire, c'est peut-être François Béranger. On n'a plus 20 ans, on est bientôt une vieille histoire... Dis-moi, oui, avant qu'il ne soit trop tard, on n'a plus 20 ans, on sera bientôt une vieille histoire. Arrêtons de remonter le temps, de nous écraser.
Oui, dis-moi, oui, avant qu'il ne soit trop tard. On n'a plus 20 ans, on sera bientôt une vieille histoire. Vivons maintenant, arrêtons de remonter le temps.
C'était le dernier épisode d'Exologie, une série d'Adila Benedjaizou réalisée par Clémence Gross et proposée à la réécoute dans le cadre de Nos Pieds sur Terre, spécial quartier d'été. Merci à Eric Lancien, à Karima, à Astrid, à Jérémy, à Hélène, à Elsa Saksik, à Rosemary et à Elsa ainsi qu'à la Villa Médicis et à Sam Sturze pour nous avoir permis de donner un petit coup de main pour réaliser cette série qui est écoutable, réécoutable, podcastable, tout ce que vous voulez sur le site de France Culture et l'appli Radio France. D'Adila Benedjaizou, à ne pas manquer non plus en ce moment une série de circonstances intitulée « Le revers de la médaille, ce que les médailles coûtent aux athlètes ». C'est au même endroit, le site de France Culture et l'appli Radio France.
Sans moi et moi sans toi, on est comme...